Bonjour, au micro Idrissa Seydoudia. Au Mali, prestation de serment ce vendredi du président de la transition, Bandao. Jeudi, les émissaires de la CDAO ont eu des entretiens cruciaux avec lui et avec la junte malienne. Nous y reviendrons dans un instant. Le Conseil national des droits de l'homme, organisme public de Côte d'Ivoire, s'est inquiété jeudi de graves menaces sur la paix sociale à l'approche de l'élection présidentielle du 31 octobre et a appelé à un dialogue inclusif. Alors que de nombreux militants d'opposition et d'ONG ont été arrêtés ces derniers mois, le CNDH, qui est un organe consultatif pour le gouvernement, demande des mesures pour garantir l'exercice des libertés publiques par l'ensemble des forces politiques de la nation et appelle à l'ouverture d'un dialogue pressant et inclusif pour trouver des solutions consensuelles durables. Guinée, l'opposant, c'est Oudalène Diallo, candidat à la présidentielle du 18 octobre, a accusé le président Alpha Condé, candidat à un troisième mandat controversé, d'instrumentaliser les divisions ethniques au risque d'attiser les violences entre communautés. Lors d'une rencontre à Dakar avec l'Association de la presse étrangère au Sénégal, M. Diallo a noté des avancées dans la confiance entre les différentes composantes ethniques de son pays. M. Alpha Condé est toujours en retard. Il veut toujours dire « les Malinkés ne votaient pas pour les Peuls », a-t-il néanmoins ajouté. En République démocratique du Congo, au moins 5 civils ont été tués dans une attaque attribuée aux ADF d'une localité de la région de Beni dans l'est du pays, a-t-on appris jeudi de sources locales. Les ADF, à l'origine des rebelles musulmans ougandais, sont tenus pour responsables de la mort de 570 civils depuis novembre 2019 dans cette partie de la RDC. Ils n'ont pas attaqué l'Ouganda voisin depuis des années, vivant de trafic comme les autres groupes armés. L'agence marocaine de presse signale que des gardes-côtes de la marine royale ont mis en échec plusieurs tentatives nocturnes de migration irrégulière en Méditerranée entre lundi et jeudi, interceptant 284 candidats majoritairement subsahariens à bord de différents moyens nautiques de fortune. Ici aux États-Unis, le couvre-feu a été prolongé jeudi à Louisville, dans le Kentucky, après des manifestations de protestation contre les suites judiciaires jugées insuffisantes de la mort de l'Africaine-Américaine Breonna Taylor. Jeudi soir, une centaine de manifestants se sont rassemblés dans le centre de Louisville. Au cours des troubles survenus la nuit précédente, deux policiers ont été blessés par balle et 127 personnes ont été interpellées. Le président américain Donald Trump a refusé mercredi de s'engager formellement à un transfert pacifique du pouvoir en cas de défaite à l'élection du 3 novembre, suscitant des protestations de son adversaire démocrate Joe Biden et de membres de son propre camp républicain. « Il va falloir que nous voyions ce qui se passe », a-t-il déclaré. Le président Trump acceptera le résultat d'une élection libre et juste, a précisé par la suite la porte-parole de la Maison-Blanche, Kayleigh McEnany. Le 11 janvier, un premier mort du coronavirus était officiellement enregistré en Chine. 8 mois plus tard, la maladie apparue en décembre 2019 à Wuhan s'apprête à faire sa millionième victime avec une courbe qui repart à la hausse en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, en Inde. L'Inde en tête. L'Union européenne a appelé les États membres à durcir leurs mesures de contrôle immédiatement. En Israël, fermeture de synagogues, restrictions sur les manifestations et réduction des commerces ouverts. Et au Brésil, l'édition 2021 du carnaval de Rio de Janeiro, prévue en février prochain, a été reportée sine die. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC. La suite de nos informations. Au Mali, le président de la transition doit prêter serment ce vendredi à Bamako. Les émissaires de la CEDEAO ont eu, jeudi, des entretiens cruciaux avec les leaders de la junte malienne. Le point avec Michel Joseph.
Bandao, 70 ans, un colonel-major à la retraite, prête serment aujourd'hui à Bamako. Il devra nommer dans les prochains jours le premier ministre, selon le plan de la junte qui a renversé le 18 août le président Ibrahim Boubacar Keïta. Cette investiture doit marquer le début d'une transition de 18 mois pour préparer des élections générales et le retour des civils au pouvoir. L'émissaire de la CEDEAO, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, et sa délégation ont rencontré hier le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Puis ils se sont entretenus avec Badao, qui a fait hier sa première apparition publique depuis sa nomination lundi. Ces entretiens seront déterminants dans la future décision des chefs d'État ouest-africains de lever ou non les sanctions imposées au Mali depuis le coup d'État. En imposant ces sanctions, dont la fermeture des frontières, pour étouffer ce pays enclavé, la CEDEAO avait réclamé la nomination de civils comme président et premier ministre de la transition.
Le président ivoirien Alassane Ouattara, candidat à un troisième mandat, a estimé que les candidatures à la présidentielle du 31 octobre de l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo et de l'ex-premier ministre Guillaume Soro étaient des provocations. Le point avec Nanit Talani.
Selon M. Ouattara, Guillaume Soro et Laurent Gbagbo ont été écartés de la course à la présidentielle ivoirienne parce que leurs casiers judiciaires ne sont pas vierges. Tous deux le savaient parfaitement, leur candidature relève de la provocation. La place de Guillaume Soro n'est pas dans la campagne électorale, mais en prison, a affirmé le président Ouattara dans un entretien publié hier par l'hebdomadaire français Paris Match. Parlant de Soro, il a ajouté « Ce jeune homme, enivré par l'argent et le pouvoir, a simplement perdu la tête. » Le Conseil constitutionnel a rejeté 40 des 44 candidatures, dont celle de Guillaume Soro et Laurent Gbagbo, condamnés à des peines de prison par la justice ivoirienne. M. Soro, en exil en France, a été condamné à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics. L'ex-président Gbagbo, acquitté en première instance par la CPI, a été condamné à 20 ans de prison dans l'affaire dite du braquage de la BCAO. Les opposants ivoiriens, dont l'ancien président Henri Konan Bédié, qualifient de forfaiture la candidature de M. Ouattara à un troisième mandat. Ils ont d'ailleurs appelé à une campagne de désobéissance civile.
À la 75e Assemblée générale des Nations unies, plusieurs chefs d'État africains ont réclamé une plus grande solidarité internationale face à la pandémie de COVID-19, dont l'annulation de la dette publique. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Nos États ont besoin d'un soutien financier à la hauteur de la crise économique qu'ils connaissent, a déclaré hier le président nigérien Mahamadou Issoufou dans son message vidéo à l'Assemblée générale de l'ONU. Il faut annuler purement et simplement la dette, a-t-il souligné, reprenant une demande formulée mardi par son homologue Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Le président du Burkina Faso, Marc-Christian Kabore, a lancé un appel dans le même sens pour une annulation de la dette. La pandémie de COVID-19 est une crise qui risque d'anéantir tous les efforts de développement, a-t-il souligné. Pour le président ivoirien Alassane Ouattara, les pays africains ont besoin de solutions pérennes en termes de liquidité et d'investissement pour résister à un choc inédit. Selon lui, les besoins financiers de l'Afrique sont évalués à 100 milliards de dollars par an sur 3 ans, soit 300 milliards de dollars. Même tonalité chez Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, pour qui il importe d'intensifier la solidarité internationale afin d'éradiquer cette pandémie de coronavirus. Mais la plupart des pays développés à qui sont destinées ces demandes d'aide sont plongés aujourd'hui dans des récessions économiques presque jamais vécues de toute leur histoire.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Burkina Faso a inauguré mardi une usine de production et d'assemblage de panneaux solaires, la première en Afrique de l'Ouest. Elle a été construite à 3,2 milliards de francs CFA dans la zone industrielle de Kosodo, au nord de Ouagadougou. Baptisée Faso Énergie, cette usine aura une production journalière de 200 panneaux solaires. La production annuelle permettra d'installer une puissance de 300 MW, soit 3% de la consommation du pays. À Madagascar, les opérateurs touristiques durement affectés par le coronavirus n'espèrent que 5 à 10% de visiteurs sans les vols internationaux. Par ailleurs, le chômage pousse les villageois à abattre illégalement des arbres pour en faire du bois de chauffe et pour gagner de l'argent, d'après Pascal Pierre, président de l'Association des guides forestiers d'Ondassibé. Cela détruit un écosystème fragile dont dépend le tourisme, qui représente 7% de l'économie malgache. Pour terminer, ici aux États-Unis, les nouvelles inscriptions au chômage ont légèrement augmenté la semaine dernière à 870 000 contre 860 000 la semaine d'avant, selon les chiffres publiés ce jeudi par le département du travail. Les analystes ne s'attendaient qu'à 825 000 demandes, soit une hausse de 4 000. Cette augmentation suggère que le rétablissement du marché de l'emploi, affecté par les mesures de confinement, s'effectue plus lentement que prévu.
Les sports à présent avec Bagassi Koura.
Bonjour à tous, Bagassi Koura pour ce journal des sports. Le Bayern de Munich est resté sur le toit de l'Europe du football en remportant après prolongation la Super Coupe d'Europe contre Séville 2-1 hier soir à Budapest devant plus de 10 000 personnes. Un but de Javi Martinez à la 104e minute va permettre aux Munichois de ranger un nouveau trophée dans leur armoire. La deuxième Super Coupe d'Europe après 2013, année où le Bayern avait, comme en 2020, signé un triplé championnat Coupe nationale C1. Quelques résultats des barrages de la Ligue Europa. Tottenham victorieux en Macédoine du Nord du Skendiga 79, 3-1. Et l'AC Milan vainqueur à domicile des Norvégiens de Bodø/Glimt 3-2. Se sont donc qualifiés hier soir pour les barrages de la Ligue Europa. Les deux clubs ne sont plus qu'à une rencontre de la phase de poule. Les barrages prévus le 1er octobre se disputant sur un match sec comme les précédents tours de qualification. Tottenham rencontrera le Maccabi Haïfa en barrage. Quant aux Italiens, ils seront opposés aux Portugais de Rio Ave au prochain tour. La FIFA a suspendu hier soir la Fédération de Trinité et Tobago pour grave violation de ses statuts alors que le petit État insulaire des Caraïbes a contesté devant le tribunal local sa mise sous tutelle. La FIFA indique que la fédération trinidadienne ne serait pas réintégrée tant qu'elle n'aurait pas reconnu la légitimité du comité de normalisation mis en place pour gérer les affaires courantes de la fédération de football du pays, établir un plan de remboursement de la dette et organiser l'élection d'un nouveau comité exécutif. Et puis pour terminer, l'ancien patron de l'athlétisme mondial et ex-membre influent du comité international olympique, Lamine Diack, a de nouveau été entendu jeudi donc par des juges d'instruction dans l'enquête à Paris sur des soupçons d'achat de vote dans l'attribution des Jeux olympiques 2016 et 2020. Une audition qui intervient une semaine après sa condamnation dans l'affaire de corruption sur fond de dopage en Russie. Le Sénégalais de 87 ans a été condamné le 16 septembre à Paris à 4 ans de prison, dont 2 fermes et 500 000 euros d'amende pour corruption et abus de confiance, notamment pour avoir retardé des sanctions contre des athlètes russes dopés en échange de financement et pour favoriser des négociations de sponsoring et de diffusion avec la Russie, un jugement dont il a fait appel.
Avec vous, je vous donne rendez-vous dans À votre avis. Le président Donald Trump veut promouvoir l'éducation patriotique à l'école. Sur le continent, des cours d'instruction civique ont ont été mises en place après les indépendances pour apprendre aux jeunes le civisme et le sens de l'unité nationale. Pensez-vous qu'il faille renforcer ces notions? Que faire contre l'incivisme dans vos quartiers, sur les routes ou sur le plan national? Vous souhaitez participer? Laissez-nous vos réactions, vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique et nous vous rappellerons les débats sur VOA Afrique. C'est tous les jours dans À votre avis à 18h05, temps universel.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La 75e Assemblée générale des Nations unies se poursuit virtuellement. À cause de la pandémie de coronavirus, les discours des chefs d'État sont faits par des messages vidéo. Jeudi matin, les présidents du Niger et de la Côte d'Ivoire se sont adressés à l'Assemblée générale. Mais l'Ivoirien Alassane Ouattara ne s'est pas étendu sur les élections du 31 octobre dans son pays. Le point avec Dili Diko, notre correspondant à New York.
La troisième journée de l'Assemblée générale des Nations unies s'est ouverte avec le discours du chef d'État nigérien Mahamadou Issoufou, président en exercice de la CDAO. Il a rappelé dans un discours long d'une demi-heure les initiatives de la CDAO dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et réitéré l'engagement de l'organisation ouest-africaine dans le règlement de la crise politique au Mali.
Le Niger est convaincu que les nombreuses menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité internationale ne peuvent pas être résolus par les États pris individuellement, mais par une action collective de la communauté internationale. Je voudrais à cet égard rendre hommage aux vaillants soldats de la paix et aux éléments de nos forces de défense et de sécurité aux côtés desquels ils sont tombés sur le champ d'honneur, notamment au Sahel et dans le bassin du lac Tchad. Nous nous félicitons du renforcement des capacités opérationnelles et de renseignement des forces de défense et de sécurité au niveau national, de l'opérationnalisation de la force mixte multinationale dans le bassin du lac Tchad et de la force conjointe du G5 Sahel. Pour un financement pérenne de celle-ci, je salue la proposition de notre secrétaire général, M. Antonio Guterres, qui préconise de s'inspirer du modèle de la mission de l'Union africaine en Somalie, à Missom et par ailleurs, la création de la coalition de lutte contre le terrorisme au Sahel, la mise en place d'un commandement conjoint pour toutes les forces participantes, dont Barkhane et Takuba, le déploiement prochain par l'Union africaine d'un contingent de 3 000 hommes, les initiatives de la CEDEAO sont autant d'éléments qui suscitent l'espoir d'une victoire sur notre ennemi commun, le terrorisme et le crime organisé.
Proche de l'élection présidentielle le 27 décembre au Niger, M. Issoufou a promis la tenue pour la toute première fois d'élections démocratiques dans son pays. Il a également demandé l'annulation de la dette des pays en développement et rappelé l'importance de faciliter l'accès aux futurs vaccins contre le Covid-19 à toutes les populations. Alassane Ouattara, qui a suivi, s'est longuement penché sur l'impact de la pandémie de coronavirus sur l'Afrique. Le président ivoirien, dont le discours était très attendu en raison de sa candidature visant à briguer un troisième mandat à la présidentielle du 31 octobre, n'a fait qu'une très brève mention des élections à la fin de son discours. Il a assuré que toutes les mesures seront prises pour des élections apaisées et transparentes à l'image de celles de 2015.
Le peuple ivoirien va élire le 31 octobre 2020 son prochain président de la République. En dépit de la crise sanitaire liée à la COVID-19, toutes les dispositions sont prises pour que cette élection soit apaisée et transparente à l'image de celle de 2015. Je me réjouis de la participation effective de toutes les parties prenantes à ce processus et voudrais vous exprimer ma profonde gratitude à tous les partenaires, notamment les Nations Unies, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et l'Union africaine, engagés aux côtés de la Côte d'Ivoire pour la réussite de cette consultation électorale. Cette élection intervient dans un environnement démocratique, consolidé par d'importantes réformes sociopolitiques et par des progrès économiques et humains indéniables qui font de mon pays une nation prospère et l'une des économies les plus performantes au monde.
Dili Diko, VOA Afrique, New York.
Au Niger, les inondations dues aux fortes précipitations et à la crue des eaux du fleuve ont occasionné plus de 60 décès cette année et d'importants dégâts matériels. La filière rizicole semble être la plus touchée avec des pertes de plus de 4 milliards de francs CFA. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
C'est après une évaluation exhaustive que la Fédération des unions des coopératives rizicoles du Niger a dressé le bilan de ces inondations pour ses membres. Mahamadou Adamou, secrétaire général de l'AFICOPRI.
Il a souligné que certains périmètres irrigués sont à leur cinquième inondation depuis 2012. Sur nos 37 périmètres rizicoles, plus de 30 sont inondés, dont 17 sont complètement sous les eaux. Sur une superficie de 6 975 hectares répliqués, nous avons enregistré plus de 3 742 hectares inondés. 15 814 chefs d'exploitation ont été sinistrés. Plus de 200 tonnes de semences perdues. L'investissement, ce qui concerne les investissements des producteurs, c'est-à-dire labour, répiquage et désherbage, ce sont plus de 753 millions qui ont été emportés par les eaux. Pour les dépenses des coopératives, c'est-à-dire les factures Nigelec, semences, réparations, pompes, cela s'élève à 472 millions. Les pertes en engrais se chiffrent à 1799 tonnes pour une valeur de 611 942 000 francs, soit un total de pertes chiffrées à 1 827 millions. Avec un rendement minimum de 6 tonnes à l'hectare, la perte en production s'élève à 22 454 tonnes de paddy, soit l'équivalent de 4 154 millions.
Les riziculteurs demandent une assistance urgente aux autorités pour la prochaine campagne et de voir dans le long terme comment solutionner ce problème récurrent.
Au regard de l'ampleur des dégâts dont la prise en charge dépasse largement les coopératives et leurs fédérations, nous en appelons l'État et ses partenaires de venir en aide à ces riziculteurs qui, ayant déjà tout perdu, sont devenus pour certains des sans-abri et surtout sans ressources de subsistance. Cet appel va dans le sens suivant. À court terme, apporter des produits de première nécessité à ces riziculteurs sinistrés, instruire l'ONAH à procéder à l'évacuation des eaux afin de permettre de sauver la campagne prochaine. À moyen terme, prendre les dispositions indispensables pour la fourniture d'intrants, c'est-à-dire les semences et les engrais, prendre toutes les dispositions nécessaires pour construire des digues de protection de meilleure qualité, afin d'éviter ce genre de situation que nous vivons depuis plusieurs années. À long terme, prendre les dispositions pour une meilleure réhabilitation des périmètres et finaliser ceux dont les travaux sont en cours depuis 2017. Mettre en place un fonds de calamité naturelle pour soutenir les producteurs en pareille circonstance. Traiter les bassins versants afin de réduire l'ensablement du fleuve et des périmètres. Accélérer la construction du barrage de Kendaji afin de maîtriser le débit du fleuve et promouvoir aussi la riziculture au Niger.
Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Togo, eh bien ce matin, notre correspondante à Lomé nous amène dans deux secteurs sérieusement affectés par la pandémie de Covid-19. Il s'agit du tourisme et de l'artisanat. Loin d'être pessimistes, des entrepreneurs mènent des réflexions pour rester debout en attendant des lendemains meilleurs. Reportage à Lomé de Kay Lawson.
Tout le monde est unanime à reconnaître que le secteur touristique est le plus touché par la pandémie de Covid-19. A expressé à Holding, une agence togolaise de voyage et de tourisme, la Covid a sérieusement frappé. Ona Mienso, directrice de Expressia Holding.
Nos activités ont été arrêtées courant mars. La dernière vente que j'ai faite au cours du mois de mars, c'est le 10 mars. Et c'est tout. Il n'y avait pas moyen de voyager. Donc notre entreprise a été réellement touchée. Jusqu'à qu'en août où on a réouvert l'aéroport international de Lomé. Du coup, cette année, on ne parle même plus de chiffre d'affaires. On est juste dans la survie.
L'herbe n'est pas non plus verte dans le secteur de l'artisanat, surtout pour des artisans qui misent sur les grandes conférences et événements internationaux. C'est le cas de Lenina Kodjo, créatrice de la marque Adjoasika Namaou.
Nous sommes dans un secteur d'artisanat, donc très porté sur l'exportation. Nous faisons nos chiffres d'affaires essentiellement sur les événements, foires internationales, etc. Et vu que les frontières sont fermées, donc il y a un pan entier du marché qui s'est fermé aussi, on se rabat sur le marché local et c'est pas forcément évident.
Pourtant, dans le secteur touristique, il se murmure que c'est du marché local que viendrait le salut. À Expressia Holding, les réflexions sont beaucoup plus tournées vers le tourisme local. Anna Mienso, directrice de cette agence.
Aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de clients qui viennent de l'extérieur. Ceux qui sont à l'intérieur, ils peinent aussi à partir. Donc on essaie de voir si on ne peut pas développer un tourisme de proximité. Notre challenge est de dénicher des endroits vraiment magnifiques et de les proposer aux Togolais.
Pour la créatrice Lenina, la collaboration entre les artisans pourrait être la porte de sortie.
Pour nous en sortir pendant cette crise, il est très impératif de se mettre ensemble. La collaboration entre plusieurs artisans est absolument de mise. Je pense que nous sommes entre griffes tenus de nous renforcer mutuellement pour pouvoir faire face à toutes ces crises qui sont en latence. Pas seulement sanitaire, mais économique.
Que ce soit pour Anna Mienso ou Lenina Kodjo, l'heure n'est pas à regarder dans le rétroviseur. Elle se focalise sur le futur avec des idées les unes plus innovantes que les autres pour prendre leur revanche sur la pandémie de COVID-19 qui a failli les mettre en faillite.
Nous sommes très optimistes. Très optimiste. On ne peut que l'être aujourd'hui. Soit on décide de s'arrêter ou on décide d'avancer. Donc nous, nous avons décidé d'avancer.
Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Les candidats républicains et démocrates à la présidentielle américaine, respectivement Donald Trump et Joe Biden, font la une des médias, mais rappelons qu'ils ne sont pas les seuls dans la course à la Maison-Blanche. Il y a en effet d'autres candidats, beaucoup moins connus, mais qui ont joué un rôle important dans le passé. Quel impact auront-ils cette année? Elisabeth Lee de la VOA se penche sur la question. Le récit est de Lionel Gahima.
Il est bien connu que le président républicain Donald Trump fera face à l'ancien vice-président Joe Biden, qui est démocrate. Ce qui est moins connu, c'est que de nombreux candidats sont engagés à la présidence des États-Unis. Tad Carser est politologue à l'Université de Californie à San Diego.
Le Parti pour la paix et la liberté, le Parti indépendant américain, souvent les gens ne savent vraiment pas ce qu'ils sont ces partis.
Les candidats de ces petits partis sont appelés candidats tiers. Cette année, les plus connus sont Joe Jorgensen du Parti libertarien et Howie Hawkins du Parti vert. Un autre candidat qui a fait la une des journaux est le rappeur Kanye West. Si les candidats tiers ne sont généralement pas considérés comme des sérieux prétendants, ils veulent jouer un rôle dans le changement de la dynamique d'une élection, ainsi qu'on l'a vu en 2016 dans le duel entre Donald Trump et Hillary Clinton. John Farmer, directeur de l'Institut Eagleton de l'Université Rutgers.
Il ne fait aucun doute en 2016 que les candidats indépendants ont fait du mal à Hillary Clinton. Tous les sondages à la sortie des urnes ont montré que les votes qu'ils exprimaient pour des candidats tiers étaient des votes qui, autrement, seraient allés aux démocrates.
Encore une fois, Tad Carser de l'Université de Californie à San Diego.
2016 a été une année où beaucoup d'Américains n'étaient pas pour Donald Trump ni pour Hillary Clinton et ils ont fait des votes de protestation.
Seulement 2016 n'est pas 2020. Tad Carser de l'Université de Californie à San Diego.
Il est très clair maintenant que les enjeux sont si importants et que Joe Biden ou Donald Trump pourraient être le prochain président et personne ne veut gaspiller son vote, si bien que les intentions de vote pour ces candidats tiers sont au plus bas.
La pandémie empêche également les candidats indépendants de prospérer sur le terrain. Il leur est difficile de faire campagne en personne. Par ailleurs, ils n'ont pas les fonds nécessaires pour se payer les grandes campagnes publicitaires à la télévision. Mais le résultat d'une élection présidentielle aux États-Unis n'est jamais connu d'avance, particulièrement cette année.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA.